La Méditerranée est un cimetière, mais le désert est un calvaire. Selon un rapport de l'ONU paru le 5 juillet, le périple dans lequel se lancent migrants et réfugiés à travers le Sahara est plus meurtrier que la traversée de la Méditerranée. Pourtant, déjà l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. Accidents, déshydratation, famine ou violence ont causé ces trois dernières années la mort brutale de plus de 1000 personnes dans le plus vaste désert chaud du monde. Pour les besoins de ce nouveau rapport, 31 000 migrants et réfugiés ont été interrogés par les Nations Unies, témoignant d'ossements et de cadavres jonchant le sable et de leur peur de périr en route. Un trajet qui s'arrête d'ailleurs très souvent en Afrique. Plus de 60% des migrants qui arrivent en Libye affirment avoir atteint leur destination finale. Les explications de Vincent Cochetel, envoyé spécial du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés pour la Méditerranée occidentale et centrale.
Ce qu'ils nous disent, c'est le premier danger, c'est des attaques de bandes criminelles, des bandits de grand chemin, des coupeurs de route qui viennent les voler, les dépriver de toutes leurs possessions. Pour les femmes, le risque est en plus accru de violences sexuelles sur ces routes. Ensuite, viennent la violence qui vient elle-même des passeurs ou des trafiquants qui forcent les gens à faire un certain nombre de choses en route. C'est pas le beau voyage qui a été promis. Il y a des conditions, il y a de l'extorsion, il y a du travail forcé, il y a parfois de l'exploitation sexuelle. Donc, des dangers qui viennent effectivement de ces passeurs et de ces trafiquants. Et puis, il y a des dangers qui viennent des autorités, aux postes frontières, des gens qui abusent de leurs fonctions pour aussi extorquer de l'argent à ces malheureux migrants et réfugiés dans le désert. Et ce n'est pas simplement sur les routes qui mènent vers le nord de l'Afrique ou vers l'Europe après par bateau, c'est aussi sur ces routes qui vont dans d'autres directions vers le sud du continent. Ils ont été témoins de personnes décédées dans le désert, qu'il s'agisse de gens qui sont tombés des camions et que les passeurs n'ont pas ramassé, de gens qui étaient malades, qui ont été abandonnés au milieu de nulle part. Ils ont vu pour la plupart des cadavres sur ces routes, dans le sud algérien, le nord du Niger, de la Libye, mais aussi d'autres portions du Sahara. Alors que quand on pose la question aux gens, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est décédé en mer, on obtient beaucoup moins de réponses. Donc sur la base de ces témoignages, on pense qu'il y a beaucoup plus en fait de décès sur terre qu'en mer.
Comment sait-on ce qu'il se passe dans le Sahara ? Est-ce un trou noir pour les ONG et les institutions internationales plus difficiles à appréhender que la Méditerranée ?
Tout à fait, il y a un certain nombre de trous noirs comme ça auxquels personne n'a accès ou peu de gens ont accès. Pour les organisations internationales, c'est très difficile d'aller là-bas. Bon, il y a des conditions géographiques qui rendent les choses difficiles, mais il y a aussi des États qui ne souhaitent pas du tout que des organisations humanitaires soient présentes, soient témoins de cette violence, qui ne dit pas son mot et puis qui est secrète, qui est beaucoup moins médiatisée parce que c'est beaucoup moins visible qu'un bateau en détresse sur la mer Méditerranée. Et donc la nécessité pour nous, les organisations humanitaires, de trouver d'autres relais. Et là, il va falloir travailler un peu plus avec les leaders traditionnels, avec les autorités locales qui sont témoins, qui sont parfois elles-mêmes aussi victimes de ces bandes, mais travailler sur un système de recherche, d'identification et de référencement pour ces gens qui traversent leurs petites communes ou les oasis ou les points d'eau qu'ils contrôlent sur ces routes.
Quel est le profil des migrants tentant le désert ? Les pays d'origine évoluent-ils ces derniers temps ?
En termes généraux, le profil ne change pas énormément. Alors bon, les données, on dépend beaucoup de ce que nous donnent les États en termes de données. Quand ces gens-là traversent la Méditerranée pour aller en Europe, il faut savoir qu'à peu près une personne sur deux obtient l'asile ou un permis humanitaire en Europe. Donc une personne sur deux est considérée comme ayant un besoin de protection internationale. L'autre personne quitte généralement son pays pour des raisons économiques ou pour aspirer à faire des études en Europe ou autre chose. Sur le continent africain, c'est à peu près pareil. Il faut savoir quand même que la plupart des migrants et des réfugiés restent sur le continent africain. 70% restent dans le pays voisin du pays qu'ils ont quitté, de leur pays d'origine, avec l'intention, quand les choses vont mieux, de rentrer dans leur pays. Donc il faut garder un petit peu la tête froide et regarder un petit peu ces données. Les seuls changements récents qui impactent ces mouvements vers le nord de l'Afrique, c'est la crise soudanaise, 10 millions de personnes déplacées, et c'est la guerre au Mali et au Burkina Faso qui amène sur les routes de l'exil de nombreux ressortissants de ces pays, pas tous là encore en direction de l'Afrique du Nord, beaucoup de Burkinabés vont dans les pays du Golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest.
Une fois les périls du Sahara surmontés, la volonté des personnes est-elle de traverser encore la Méditerranée pour rejoindre l'Europe ?
Pour certaines, oui. Certains ont formé ce vœu dès leur pays d'origine. on a cette statistique intéressante qui nous dit que 21% des gens que nous avons interviewés, c'est quand même 32 000 personnes, nous disent qu'ils ont un point de destination en tête et qu'importe l'information sur les dangers, etc., ils tenteront le tout pour le tout. Alors ça veut dire aussi que 79% regrettent d'avoir fait ce choix. Ils nous disent que s'ils avaient su quels étaient les risques réels et pas simplement ce que leur ont dit la famille, les passeurs, la diaspora, ils n'auraient pas entrepris l'ensemble du voyage qu'ils ont pris. Ça, c'est assez intéressant en termes de travail sur les solutions. Maintenant, pour beaucoup, par exemple, de gens vont sur la Libye et pour eux, la Libye est la destination finale. Ils pensent travailler là-bas, trouver du travail là-bas. Ils n'ont pas l'intention d'aller en Europe. On a cette statistique que 70% des gens ont atteint leur destination finale lorsqu'ils arrivent en Libye.
Quelles sont les politiques d'accueil en place dans les pays de la rive nord-africaine au terme du périple saharien? Avec quelles violations et abus éventuels constatés?
Le problème principal, c'est que tous les pays d'Afrique du Nord ont ratifié les instruments internationaux relatifs à la protection des réfugiés, que ce soit des instruments internationaux ou des instruments régionaux, mais qu'aucun pays d'Afrique du Nord n'a une loi sur l'asile. Tous les autres pays du continent africain ont des lois sur l'asile, ont des systèmes d'asile qui fonctionnent plus ou moins bien, mais qui fonctionnent. En Afrique du Nord, on n'a pas de loi sur l'asile. Et donc, ces pays-là nous disent toujours, ben oui, mais on est des pays de transit. En fait, ce ne sont pas simplement des pays de transit. On l'a vu au moment de la pandémie. Il y a 3 ans, on voyait toutes sortes de communautés, tant migrantes que réfugiées, dans les pays d'Afrique du Nord, qui travaillaient dans le secteur informel de l'économie pour la plupart, mais qui jouaient un rôle assez essentiel dans un certain nombre de secteurs économiques. Or, sans cadre législatif, ça veut dire que les gens n'ont pas le droit au séjour, donc leur situation est très précaire. Et dès qu'on va avoir quelques incidents, parce qu'il y a des incidents en termes de cohésion sociale avec certaines communautés, il y a des risques que ça se finisse mal. Donc on a eu malheureusement des vagues d'expulsion de l'Algérie vers le Niger, de la Tunisie vers la Libye, vers l'Algérie, de la Libye vers d'autres pays limitrophes. Et pour nous, ces expulsions de masse ne sont pas la solution, parce que les gens vont vers d'autres pays, repartent après. C'est pas régler d'une manière responsable la gestion de ces flux migratoires et de l'asile.
Pour améliorer l'assistance à ces routes du Sahara, quelles solutions de protection imaginer et de la part de quels acteurs?
Il faut que les États s'entendent. Aucun État seul ne peut répondre au défi d'une meilleure gestion de ces mouvements sur le continent. Donc il faut travailler sur une approche basée sur la route, les chemins que les gens empruntent. Les dynamiques dans les communautés ne sont pas forcément les mêmes. Donc il faut aussi faire l'effort de savoir qui influence, comment les gens financent leur voyage, quelles sont les activités programmatiques qu'on une valeur stabilisante, là où il faut améliorer la protection, parce que les gens ont des vies brisées le long de ces périples. Travailler sur le retour, il y a des gens qui ont besoin d'assistance pour rentrer chez eux. Donc il y a toute une palette d'activités qui doivent être mises en place, mais ce n'est pas simplement les organisations humanitaires qui doivent faire ça. Il faut une appropriation au niveau des États de ces solutions basées sur les routes. Il ne faut pas abandonner cette obligation de solidarité. Enfin, quand on voit un petit peu les malheurs auxquels nos semblables sont exposés le long de ces routes, il faut se réveiller, il faut mettre en place des solutions. Il s'agit d'abord de sauver des vies au-delà du statut des gens, qu'ils soient réfugiés, qu'ils soient migrants. Cette qualification est importante après pour ce qui s'agit des solutions, mais en termes d'aide d'urgence, le trafiquant ne fait pas la différence si une personne est un migrant ou est un réfugié. Donc l'Europe doit aider les pays le long de ces routes de façon à mettre en place un petit peu ces mécanismes de protection et d'assistance qui vont donner des alternatives aux gens, des alternatives dignes et des alternatives à ces voyages dangereux et irréguliers. Un petit peu dans l'esprit de ce que les États européens avaient adopté avec un certain nombre d'États africains lors du sommet de La Valette en 2015.
Interrogé par Delphine Allaire, Vincent Cochetel, envoyé spécial du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés pour la Méditerranée occidentale et centrale, était ce matin l'invité de Radio Vatican.